Ah.
Willet.
Non, 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 non. Écoute, écoute, là, franchement, là.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Pour nous texter. Ouellette en direct en bicyclette. Ich, je me trompe. En vacances. Hey, blague à part, JC va être de retour lundi prochain. D'ici ce temps-là, il y a Max et moi autour de la table. Peut-être que Gary va se joindre à nous là, d'ici la fin de la semaine. En studio, il est ingénieur, avocat, créateur de contenu québécois. Farnel Morisset est avec nous. Et Farnel, juste avant que je te laisse parler, j'ai aussi vu influenceur. Puis je me demandais, est-ce que le mot influenceur, à côté de ton nom, ça te tape sur les nerfs ou ça te dérange pas?
Non, ça me dérange pas. C'est un monde où toute la terminologie est encore à définir, à oui. construire. Là, je suis souvent, on voit info-influenceur, je suis confortable avec ça aussi, mais tu sais, je veux dire, mon métier, je suis avocat, je suis membre du barreau de New York, ça a été ça les dernières années de ma vie. Ça, c'est un peu un sideline qui a pris un peu plus d'ampleur, mais... Le mot lui-même, influenceur, je veux dire, le caissier au dépanneur qui t'offre un sac de chips avec ton Pepsi parce qu'il est en spécial, il essaie d'être influencé aussi. Il n'y a rien de mal à être influenceur.
Ouais, mais oui, okay, oui, je comprends, mais quand même, sur les réseaux sociaux, des fois, je trouve que ça a un son plus négatif que positif. C'est pour ça qu'on dit de plus en plus, je pense, créateur de contenu. Ben, je pense que ça répond à ça des fois, parce que des fois, il y a eu un moment donné, les gens disent « Ah non, je ne suis pas influenceur, moi, je crée du contenu ». Que tu trouves mais toi, ça te dérange pas.
Moi, ça me dérange. Okay. C'est une espèce de tapis roulant d'euphémisme. Éventuellement, le créateur de contenu oui. va commencer à être péjoratif oui. à mesure que des gens utilisent ce terme-là pour faire des niaiseries. Alors, regarde, utilisons le terme qu'on veut, là, tant qu'on se comprend, c'est correct.
OK. Là, je veux que tu me parles un peu de ton background. Parce que oui, on va parler du Venezuela. C'est pour ça que tu es en studio un peu. Mais juste pour ceux qui ne te connaissent pas, OK? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on te voit un peu partout, que ça marche, que sur les réseaux sociaux, tu as des vues comme c'est pas possible? Ça part de où, cette histoire-là? Là?
Ça part. Il y a 5 ans, aujourd'hui, à peu près. Ouais, il y a 5 ans. Presque jour pour jour, c'était le 6. Alors, c'est, quasiment 5 ans. J'ai commencé à faire des capsules sur TikTok initialement, juste parce que je vivais aux États-Unis. Ben, je travaillais aux États-Unis, j'étais à Québec pour la pandémie, mais je travaillais aux États-Unis en télétravail. Et je voyais ce qui se passait aux États-Unis. C'est le 6 janvier 2021, c'est la journée où il y a eu les partisans de Donald Trump qui ont fait invalider le résultat au Capitole, exactement. Mm-hmm. Puis je savais qu'au Québec, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses-là aussi, cette espèce de bris social-là. Puis c'est vraiment ça que j'ai vu, tu sais. On peut être d'un bord ou de l'autre ou de n'importe quel bord qu'on veut, mais fondamentalement, c'est des gens qui ne se parlent plus puis qui se livrent à la force pour essayer d'invalider ou d'affecter les résultats des élections. Quand on arrive là, ça va mal. On n'est pas à l'abri de ça au Québec non plus. Si un genre d'espèce de mouvement prend l'ampleur, c'est peut-être même potentiellement plus facile. La seule défense qu'on a, c'est une culture citoyenne de gens qui se parlent puis qui comprennent comment le jeu est supposé fonctionner, c'est quoi les règles non écrites et écrites de la société. Et j'ai réalisé que j'avais peut-être une certaine capacité de participer à cette discussion-là. J'ai commencé à faire des petites capsules, puis ça partit de là.
Et puis ton background, c'est, je pense, t'es-tu avocat de formation, c'est ça?
En premier, je suis ingénieur. J'ai fait mes études en génie. J'ai travaillé 5 ans pour une compagnie à Québec dans le parc technologique. Après ça, j'étais allé faire des études en droit. Et en même temps, mineur en économie, j'ai été recruté par un cabinet à New York. Alors, je suis membre de New York.
Ça va bien.
Et puis, j'ai fait ça 6 ans de temps avant de quitter pour aller faire une maîtrise en philosophie des sciences sociales et de l'économie à Londres, que j'ai terminé il y a à peu près 1 an et demi. Puis maintenant, je suis de retour, je suis établi à Québec.
Ça fait quoi, la philosophie des... Là, tu vas me dire que je suis pas venu pour ça.
Non, c'est correct.
Mais j'ai goût. Ça fait quoi, les études, tu dis, en philosophie des sciences sociales? Ça amène à quoi, ça, quand un coup, tu étudies là-dedans? C'est pour faire quoi par la suite?
Ça transforme le cerveau en un outil de réflexion critique vraiment très efficace. Okay. C'est vraiment surtout ça. Là. Si vous me demandez, ça mène à quoi comme job, c'est un peu nébuleux parce que sincèrement, ça...
La philosophie, c'est nébuleux.
C'est vaste,
oui,
exactement. C'est pas comme tu fais des études en droit pour devenir avocat. Tu fais des études en génie pour devenir ingénieur. Tu fais des études en philo pour devenir quelqu'un qui a une valeur intellectuelle, on l'espère. Puis même là, c'est pas toujours garanti ou donné. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est dans le fond, je vous demanderais, c'est quoi la valeur de lire un livre de réflexion critique? Ben, ça a une valeur. C'est difficile de dire ça va définitivement équivaloir à 20 000 $ de plus par année. C'est pas une équivalence du genre, mais c'est clair que ça te rend quelqu'un qui est, on l'espère, un peu plus critique, un peu plus capable d'analyser, un peu plus capable de prendre un pas de recul, un peu plus capable de faire des liens entre des différents éléments de la société. société, entre les différents éléments de la vie dans lesquels on existe, et qui peut, après ça, peut-être aider à apporter ce genre d'analyse-là, ce genre de sens critique-là
au reste
de la vie.
Mais le terme économique, en philosophie économique, est-ce que vous étudiez Kant, Descartes? Ça n'a aucun lien avec ça?
Oui, j'étudiais Kant un peu, Descartes un peu, mais c'est plus... c'est vraiment le programme de la London School of Economics que j'ai fait est très axé sur le contemporain. Okay. Alors, c'était beaucoup plus... Oui, il y avait du Adam Smith, il y avait du Karl Marx, mais c'est beaucoup plus des auteurs économiques très contemporains dans des questions du genre, c'est quoi la valeur d'un modèle économique? Comment est-ce qu'on peut déterminer, comparer des modèles économiques l'un à l'autre quand les deux font des présomptions, des présuppositions différentes. C'est des questions qui sont peut-être, qui semblent un peu loin de monsieur, madame, tout le monde, puis je comprends, mais qui ont quand même, je veux dire, des décideurs prennent des décisions en fonction de modèles. Si on n'a pas suffisamment analysé les modèles, voire les angles morts, ça fait des décisions qui ne sont peut-être pas les meilleures pour monsieur, madame, tout le monde, qui se reflètent dans leur capacité de payer leur bouffe à la fin du mois pareil.
Exact.
Si je comprends bien, toi, t'es né bilingue, là, ou t'as grandi bilingue, parce que pour être engagé par une firme à New York, pour y travailler 6 ans, pour aller étudier en Angleterre, c'est parce que t'as une facilité avec la langue anglaise.
Je suis né dans une famille qui est bilingue. J'ai fait mon primaire, secondaire, mon cégep à Québec, mais en anglais.
OK.
PSPP,
t'aimes pas, là.
Pourtant, je veux dire, je suis allé à la même école de droit que M. Plamondon. Lui aussi a fait droit à McGill. Alors,
OK. Et tu vas en même temps?
Non, pas en même temps.
Il y a 48. Excusez-moi. Ouais. OK, fait que c'est de là que vient ton bilinguisme. Cela étant dit, évidemment, si tu es en studio, c'était pour parler de Nicolas Maduro. Donc, Nicolas Maduro qui a été capturé en fin de semaine, ce samedi, par Donald Trump. Et la première question que j'ai le goût de te poser, OK, selon toi, est-ce que le Venezuela est dans une meilleure condition là, depuis que Nicolas Maduro n'est plus président du Venezuela?
Ça, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que je ne suis pas vénézuélien, je ne suis pas au Venezuela. Je pense que... Puis même, j'ai l'impression que même au Venezuela, il y a peut-être 5 ou 6 personnes dans le pays au complet qui savent c'est quoi la réponse réelle à ça. Et pour tout le reste du monde, la réponse, ça va être « ça dépend ». Ça dépend, est-ce que tu es proche du pouvoir? Est-ce que tu étais proche de l'ancien régime? Est-ce que tu es dans une des industries dans lesquelles il va y avoir des investissements massifs ou est-ce que tu es ailleurs? Ça fait même pas une semaine, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour savoir c'est quoi la réponse à ça. Si on regarde, par exemple, les autres pays où il y a eu des changements de régime comme ce que les États-Unis viennent de faire, ça a pris 5-10 ans à savoir le résultat final. Est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose pour ce pays-là?
Et dans la plupart des cas, ça a éclaté en guerre civile.
Généralement, ça va mal. T'sais, c'est quand même, je veux dire, je veux aucunement défendre le bilan de l'ancien, de l'ex ou du président actuel Maduro. Je sais pas trop comment l'appeler, là, parce que je sais que c'était pas un bilan qui était très bon.
Lui
pour...
prétend qu'il est toujours le président.
Mais en tout cas, tu sais, sans vouloir faire ça, ça reste que quand on enlève la source de pouvoir dans n'importe quel système, que ce soit un pays, une compagnie, peu importe, le vide qui se crée se fait généralement combler rapidement, mais pas toujours de la meilleure façon, par ceux qui sont capables de s'emparer rapidement du pouvoir plutôt que par ceux qui sont capables de le faire avec un mandat populaire.
Est-ce que, l'histoire du pétrole, est-ce que le Canada, par rapport à ce qui va se passer, parce que là, on le sait, là, c'est une terre promise pour ce qui est du pétrole au Venezuela, le fait que Donald Trump a dit d'ailleurs qu'il allait faire un deal 50-50, si on veut, là, fait que je vais garder un bout de l'argent du pétrole puis je vais en donner aussi au Venezuela. On est où, là, nous, là, dans toute cette map monde-là? On se situe où, le Canada? Là? Est-ce que tout va bien pour nous ou tout va mal pour nous? On se situe où, là?
C'est genre de réponse, de question, il y aurait eu une réponse facile il y a 2 ans ou il y a 1 an, avant le retour de l'administration Trump. Puis c'est rien contre l'administration Trump spécifiquement, mais c'est juste plutôt que l'administration Trump actuelle agit de façon qui est contraire aux principes de droit international que généralement les États-Unis n'ont pas toujours respecté, mais ils faisaient au moins semblant et puis ils essayaient à l'intérieur de leurs intérêts de respecter les principes de droit international.
Est-ce que c'est mieux de faire semblant? Ou c'est mieux de l'assumer?
C'est une question de prévisibilité. T'sais, si vous êtes n'importe quel autre pays qui doit interagir de façon soit positive ou négative avec les États-Unis, savoir que les États-Unis respectent un certain code de conduite, ça nous permet à tout le reste de la planète de savoir que nous, tant qu'on agit de telle façon, les États-Unis vont respecter tel règlement. Ça permet d'avoir une prévisibilité de qu'est-ce que les États-Unis vont faire. Quand les États-Unis et n'importe quelle autre puissance mondiale, la Russie, la Chine, arrêtent de respecter les principes de droit international, tous les autres personnes, tous les autres pays qui ont à interagir, encore une fois, positivement ou négativement, sont plus capables de se fier à ce que les États-Unis vont faire selon cette espèce de code de conduite. Alors, tous les autres pays sont un peu obligés de se préparer pour le pire, même si on ne sait pas si c'est vraiment ça qui va arriver, parce que justement, on ne le sait pas. Puis se préparer pour le pire...
Oui, ça veut dire quoi, ça, se préparer pour le pire?
Ben, ça veut dire, entre autres, s'assurer qu'on est capable de projeter, si on est le Canada, projeter du pouvoir militaire dans l'Arctique, par exemple. Mm. Parce que, bon, ben, on peut
on
s'imaginer...
On est capable de faire ça?
C'est pas facile. On a des gros retards là-dessus.
Oui.
Mais tu sais, c'est le genre de choses qui... On parle souvent d'investissement militaire, puis je pense que le terme est quand même intéressant, parce que c'est pas payant. Mettre de l'argent dans l'armée. Mm-hmm. C'est le genre de choses qui limite les pertes à long terme, mais c'est pas le genre de choses qui stimule le développement économique tant que ça.
Et ça se peut-tu que par fierté aussi, tu sais, là, je t'enlève le côté financier, mais on dirait que, ou je sais pas, c'est peut-être aussi le Québec seulement. Peut-être que le Québec se détache du Canada par rapport à ça, mais on n'est pas tellement fiers de nos militaires. Tu sais, on n'aime pas beaucoup ça, la guerre, l'armée. Est-ce que c'est peut-être que ça soit pas payant politiquement?
On n'a pas une culture militariste, non. Mm. Mais je pense que là-dessus, on réalise ça juste quand on se compare aux États-Unis. Les États-Unis, ça fait depuis la fin de la guerre du Vietnam que les forces armées ont réalisé qu'ils avaient besoin politiquement de l'appui de la population. Avant la guerre au Vietnam, les États-Unis avaient une vision du militaire un peu comparable à la nôtre. C'est quelque chose qui est correct, qui est noble, mais on ne va pas nécessairement en faire les louanges partout. Là, bon, il y a eu la guerre au Vietnam, les soldats qui sont revenus, qui n'ont pas été très bien accueillis par la population parce que la guerre était impopulaire. Les forces armées ont réalisé qu'on a besoin de l'appui du peuple. C'est là qu'on a commencé à voir l'hymne national chanté avant les matchs de sport. C'est là qu'on a commencé à avoir énormément d'argent mis dans la promotion du Veterans Day. Ce genre de choses-là pour créer une espèce de culture d'appui aux militaires, parce que politiquement, ça permet après ça aux forces armées d'agir d'une façon claire avec ce qui s'apparente à un mandat populaire. On n'a pas tant ça ici, ce qui fait que politiquement, c'est pas très payant de dire on va investir massivement dans les forces armées, à moins que, comme on est en train de vivre présentement, il semble avoir peut-être, pas une urgence, mais un besoin un peu plus clair, un peu plus présent.
On a l'air magané.
Puis c'est sûr que quand les États-Unis, qui ont toujours été le grand frère qui dit « inquiète-toi pas, je te back », quand on commence plus à être si certain que ça, là, on réalise, oups, on a du retard à se rattraper. Puis c'est peut-être entre autres parce que justement, on n'avait pas cette espèce de culture-là avant.
Oui, les forces ont changé. L'Europe semble de plus en plus, dans ce contexte-là, dans le contexte dans lequel on évolue actuellement, là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, au sortir de la guerre en 1945, l'ONU est créée aujourd'hui. C'est-tu encore pertinent? On peut-tu s'appuyer sur les fondements de l'ONU pour garantir la sécurité un peu partout dans le monde?
Ben, les fondements de l'ONU existent seulement tant que les grandes puissances respectent les fondements de l'ONU.
Est-ce que les fondements de l'ONU respectait ses propres fondements, c'est-à-dire, si on parle de paix, liberté, justice, est-ce que l'ONU l'a échappé aussi? Est-ce que c'est devenu un instrument politique pour oublier c'était quoi notre base? Ce qui fait que les États-Unis ont rattrapé ça parce que l'ONU était dans un brouillard puis a oublié ses fondements. Est-ce que ça peut faire partie? Des fois, on n'a pas beaucoup cette réflexion-là, mais je me questionne là-dessus.
T'sais, je pense que souvent, on tend à voir l'ONU de la même façon qu'on voit nos gouvernements. T'sais, on s'imagine que l'ONU devrait être une espèce de gouvernement mondial. L'ONU aspire pas à ça. Si l'ONU aspirait à ça, il y aurait une armée de l'ONU plutôt que la notion qu'on a récemment, que c'est chaque pays qui peut fournir des soldats pour les opérations de l'ONU aux besoins et aux désirs de chaque pays. L'ONU est beaucoup plus un forum de discussion qui peut amener une certaine autorité morale, qui peut aussi contribuer au développement de c'est quoi les codes écrits et non écrits entre les États. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent l'ONU, qui est complètement incapable de limiter les activités des États-Unis, de la Russie, de la Chine, puis ils disent ben, « l'ONU est impuissante ». L'objectif de l'ONU, c'est pas d'avoir une puissance militaire, c'est d'être une place où les pays peuvent se parler entre eux et développer à très longue haleine, à très long terme, des codes qui, on espère, vont être respectés.
Donc, mais tu penses que l'ONU n'a rien à se reprocher? On dirait que je trouve que c'est devenu un instrument politique. On dirait qu'on a des idéologies que l'on veut imposer, alors que c'était pas ça, les fondations de l'ONU. Mais tu trouves que, dans le fond, l'ONU n'a rien à se reprocher.
Je comprends bien. Il faut encore une fois, comprendre l'ONU pas comme étant une espèce de monolithe. L'ONU, c'est un forum de discussion. Ouais. Et les différents pays à travers le monde y apportent leur propre point de vue, leurs propres conclusions, des conclusions qui sont des fois contraires à ce que nous, on aimerait. Mais fondamentalement, il ne faut pas s'imaginer que l'ONU est une puissance qui existe avec un agenda particulier. L'ONU est un rassemblement d'agendas différents qui permet peut-être à certains pays et à certains points de vue de se donner une visibilité qu'il n'y aurait pas autrement. Mais l'ONU en tant que telle, ce n'est pas un monolithe. Puis je ne pense pas qu'il faut le voir comme un organisme qui a une direction.
Max?
Dans le contexte le toujours actuel, est-ce que ça veut dire que le droit international, c'était beau de façon théorique, mais il était voué à être enfreint? Quand on parle des superpuissances, là, comme tu le dis, les États-Unis, quand même qu'ils l'enfreignent, qu'est-ce qu'ils vont faire les autres pays? Ils ne peuvent pas intervenir parce qu'ils savent que les conséquences vont être 10 fois plus graves que les actions qui sont portées par les superpuissances. Donc, est-ce que c'est juste une lubie qu'on se crée, nous, en tant que société moderne ou non? On se dit on va respecter ces codes-là, mais au final, c'est juste sur papier qu'existent ces codes-là?
Je pense que croire que le droit international agit comme nous, on conçoit le droit, c'est-à-dire comme quelque chose qui vient avec une force puis des gens qui vont l'appliquer de façon coercitive, c'est-à-dire nous, moi, si je viole les lois ici, la police vient avec des armes puis m'oblige à les respecter.
C'est concret.
Ça, c'est concret. Le droit international, ça fonctionne pas de même. Le droit international, si on veut se faire un parallèle, là, imaginez que c'est plus comme la notion de l'honneur dans des sociétés guerrières. L'idée, c'est que si tu sais qu'un guerrier, qu'il soit de ton bord ou de l'autre bord, respecte un code d'honneur, ouais. Tu sais comment il va réagir dans certaines situations, alors tu peux interagir avec lui, tu peux dealer avec lui, tu peux aller lui parler. Si tu sais, par exemple, que selon le code d'honneur, un drapeau blanc, ça veut dire que tu tires pas, ben ça te dit que si jamais j'ai à négocier quelque chose qui est dans nos intérêts mutuels, moi et mon opposant, j'arrive avec le drapeau blanc, ça va être respecté. Il n'y a rien qui oblige qui que ce soit à respecter le drapeau blanc, sauf que si tu ne respectes pas le drapeau blanc, ce que ça dit à tous tes opposants à l'avenir, c'est que tu ne peux pas négocier avec cette personne-là.
T'es pas fiable.
T'es pas fiable. Alors, si jamais il y a une situation où il y a une façon de sortir d'un impasse par la diplomatie, par la négociation, ben tu peux plus parce que tu n'as pas confiance que ton opposant respecte les normes en place. Puis ça, ça veut dire qu'à long terme, les gens qui ne respectent pas les normes en place sont obligés toujours de se battre plus et plus. Ça rend ça beaucoup plus difficile d'avoir des ententes, ça rend ça plus difficile de coopérer. Et puis les États-Unis ont beau être la superpuissance mondiale, c'est dans leur intérêt à eux aussi d'être dans une posture où ils peuvent coopérer avec les autres pays. Et ça devient plus difficile chaque fois qu'ils ne respectent pas ces normes.
Ben en fait, ce que je vois aussi, c'est qu'ils veulent dominer. Et aussi, bon, le Groenland, qui est un enjeu actuellement. Puis là, je me suis dit aussi, c'est tout ça. Là, on jase. Okay? Là, on se met en mode podcast. Okay? On se détache la cravate. J'aime bien ça quand on tombe de ce côté-là. OK. Là, on a les États-Unis, super puissance, qui veulent dominer. OK? Puis que là, ils se disent aussi, hey, le Groenland, you're next. Parlez-moi-en dans 2 mois. Hein? Mm-hmm. En passant, Donald Trump, c'est ce qu'il a dit. Là, on se dit, puis là, il y a le Canada. OK, on recule de là peut-être, ça fait déjà un an, je pense, qu'il nous a proposé de devenir le 51e État, puis il disait, en passant, ça s'en vient, vous allez le devenir, il l'a martelé. Là, s'il s'en va prendre le Groenland, là, on va être entouré d'une superpuissance des États-Unis. Est-ce qu'on est... Là, on jase, OK? On prend une pof de pot, OK? Est-ce qu'on est en train de se faire... dominer parce qu'on va être entouré par les États-Unis et qu'à un moment donné, on va devenir, parce qu'ils vont être au Groenland, parce qu'ils vont nous ceinturer, on n'aura pas le choix de rentrer avec les États-Unis. Est-ce que ça peut être... C'est-tu une possibilité, une tactique où je fabule complètement?
J'imagine très mal une souveraineté canadienne comme on la comprend actuellement. Puis soyons clairs, la souveraineté canadienne, ça vient déjà avec un assez gros astérisque de l'influence économique, politique des États-Unis. Mais j'imagine mal un maintien de la souveraineté canadienne comme on la comprend actuellement s'il y a les États-Unis au sud, les États-Unis dans la forme de l'Alaska à l'ouest et les États-Unis dans la forme du Groenland à l'est et au nord un peu aussi. C'est dans tous les intérêts de la souveraineté canadienne.
Donc, ils sont tout autour.
Oui, c'est ça. C'est
venant le cas.
Exact. C'est, alors là, bon, la question du passage du Nord-Ouest ne se pose plus parce que même si on reconnaît que les eaux territoriales réclamées par le Canada dans le passage du Nord-Ouest lui-même sont canadiens, c'est beau, c'est bien beau, mais tu peux pas rentrer et tu peux pas sortir sans passer par l'Alaska ou le Groenland qui sont maintenant supposément, dans cette théorie-là, les États-Unis. Et ça devient aussi très difficile vouloir faire de l'exportation de nos ressources si les seuls accès qui nous restent aux marchés internationaux passent par des eaux qui sont facilement contrôlées par les États-Unis. C'est pas du tout dans les intérêts du Canada que le Groenland devienne une espèce de protectorat, une espèce de nouveau Porto Rico du Nord des États-Unis. Et c'est certainement pas, je pense, dans les intérêts de l'Europe non plus.
Non.
C'est
toi,
le genre...
Toi, tu penses que c'est impossible d'entrer de jeu juste par rapport au Groenland? Est-ce que tu crois que c'est impossible que les États-Unis peuvent l'acquérir ou il y a possibilité que... Est-ce que la porte est complètement fermée pour toi?
Ben c'est genre, je peux plus répondre parce qu'il n'y a plus de règles.
Oui.
Il y a plus de règles. C'est ça, l'enfant. J'aurais pu répondre il y a 6 mois.
OK.
J'aurais dit que c'est impossible. C'est okay. politiquement impossible à l'intérieur des règles du jeu. Mais là, les États-Unis, ils ont pris les règles du jeu puis ils ont flippé à la table. Clairement, ça c'est plus si grave que ça. Je veux préciser, là, c'est pas la première fois que les États-Unis font ce genre de choses-là.
Non, le gouvernement l'a fait aussi. Oui, exactement. Sans l'approbation.
Mais de le faire d'une façon aussi ouverte et aussi flagrante que ça, ce que ça signale aux gens, c'est on s'en fout, on va même plus faire semblant.
Oui. À part les vues impérialistes, pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce que Trump convoite? T'sais, on parle de bases militaires au Groenland, défendre tout le Nord, littéralement, mais qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Pourquoi Trump tient à tout prix à avoir le Groenland?
Ben, je pense que quand il dit qu'il y en a besoin pour la défense nationale, il est pas en train de fantabuler. Là. C'est, il y a au Groenland des minéraux.
Oui, c'est
mais si c'était juste une question des minéraux, là, il y a façon de faire une entente avec le Danemark ou avec l'Europe pour pouvoir aller les exploiter. C'est surtout, je crois, et là, je suis pas dans la tête de Donald Trump, mais je veux dire, si on regarde, là, on imagine la carte du monde et on se rappelle que dans le Nord, la carte du monde est très étendue, mais en réalité, le Danemark et la Russie ne sont pas si loin que ça. Et si les États-Unis veulent s'assurer que les sous-marins russes, qui sont très difficiles à détecter, ne peuvent pas patauger dans les eaux de l'Atlantique du Nord librement, les États-Unis ont besoin d'avoir des bases militaires en Islande, au Groenland et dans le nord de l'Europe.
C'est intéressant. Ça veut-tu dire que le Danemark dort au gaz?
Je pense plutôt que le Danemark aurait peut-être tout intérêt à... Et c'est peut-être ça l'objectif, là, à entrer dans une espèce d'alliance militaire, donner des...
Est-ce qu'ils veulent?
Ben, peut-être qu'ils veulent.
Mais
on regarde le Danemark est vraiment proche de la Russie aussi. Là. Mm-hmm. Si jamais la guerre éclate, le Danemark est à côté de la Russie. Alors, c'est pas tant dans les intérêts du Danemark non plus de se mettre la Russie à dos. Puis une excellente façon pour le Danemark de se mettre la Russie à dos de façon très importante, c'est de permettre des bases militaires au Groenland. Alors, le Danemark est dans une position difficile. Je pense pas qu'ils dorment au gaz. Ils sont pognés entre deux superpuissances qui s'aiment pas et ils voient l'évolution du monde puis ils se disent, si ça pète, on veut pas que ça pète chez nous.
Mais les États-Unis ont déjà eu une base au Groenland pendant la guerre froide. Pourquoi juste pas la réactiver?
Parce que ça serait du point de vue de la Russie, ce serait un affront venant du Danemark. Et réactiver cette base-là, il faudrait que ce soit fait avec l'accord du Danemark, évidemment. Puis la Russie va regarder le Danemark et dire Hey, le voisin, là, qu'est-ce que tu fais? »
Mais prendre le Groenland, ça serait encore pire, finalement. Ça serait un aveu de guerre. Là.
C'est ce genre de situation où c'est difficile d'arriver à une entente négociée. T'sais, c'est tough commencer à sortir des bûches du feu quand on commence à faire des choses du genre. Si les États-Unis commencent à mettre des bases militaires avec l'aval du Danemark au Groenland, ben là, le Danemark est en train de peinturer une grosse cible sur son front vers la Russie. Mais si les États-Unis le font sans l'aval du Danemark, ben là, je veux dire, c'est l'OTAN elle-même qui est remise en question.
Tout à fait.
Qui nous place, encore une fois, dans une position très difficile, vu que l'OTAN existe pour contenir la Russie, essentiellement. Puis là, ben, si l'OTAN tient plus... c'est pas entièrement clair que l'Europe par elle-même va vraiment vouloir se pogner contre la Russie. C'est ça l'enjeu. Puis là, on est dans les théories potentielles. Alors, je dis absolument pas que c'est ça qui va arriver, mais on joue aux échecs en pensant à ce va être quoi les 5-10 prochains moves de mon adversaire. Et ça, ben, c'est potentiellement dans les cartes.
Bon, on dirait que plus tu parles, plus après ça, j'essaie de nous trouver notre place, nous, le Canada, parce qu'on est toujours à l'intérieur de ce dit pays. Puis je me dis, me semble que je t'inquiète. Me semble que je me sens pas fort.
Je me sens pas fort non plus. On n'est pas dans une position de force présentement.
Comme moi, on dirait que je subis, puis je vais continuer de subir.
Non, non, mais c'est parce qu'il faut faire du Québec un pays. Même.
Ben, oui, c'est ça, mais même si Mark Carney disait, moi, le Groenland, je vais vous défendre, je trouve qu'on n'a aucun poids. On est comme une joke. J'ai l'impression que nous sommes la joke. Que tout le monde jase autour, mais qu'on n'est pas... Et pourtant, on est juste à côté. C'est... Les États-Unis sont à côté. Là. C'est notre voisin.
Ben ouais, c'est une opération militaire.
On n'existe pas du tout, puis on va subir. C'est l'impression que ça me donne.
Si les États-Unis voulaient aller avec leurs hélicoptères à Ottawa, là, comme ils l'ont fait au Venezuela, là, ils pourraient partir des bases militaires aux États-Unis, puis partir, faire leur opération, revenir, sans même remplir le tank à gaz. Là. On est proche à ce point-là.
Ça arrivera pas, là, mais ouais, pour elle.
Je veux dire, ça arrivera pas. Quelle chose impensable et impossible ont arrivé dans la dernière année? Je pense pas que ça va arriver.
Je suis plus capable de dire que quelque chose est impossible.
Ouais. Mais non, plus probablement, les États-Unis n'ont pas besoin de faire ça. Ça coûte pas mal moins cher. Juste dire, hey, on contrôle 90% de ton économie déjà. Là.
On va vous appauvrir et on va vous prendre après.
Et c'est pas pour rien que le gouvernement Carney fait, encore une fois, on est en rattrapage, mais fait des énormes efforts pour diversifier les partenaires économiques du Canada pour essayer d'enlever cette espèce de kill switch là que les États-Unis ont à dire, bon, ben on sort du libre-échange, on met fin, on met une barrière dure, on n'importe plus rien de chez vous, puis on attend que vous nous demandez de devenir le 51e État.
Le rapprochement avec la Chine, à ce niveau-là, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour le Canada?
Si on s'imagine, encore une fois, on est où dans les 10 pires moves imaginables? Alors, on s'imagine 5-10 ans dans le futur où tout va de la pire façon imaginable, ça éclate en guerre. C'est pas dans notre intérêt d'être proche de la Chine quand on est collé aux États-Unis.
Ben non, c'est sûr, c'est notre allié.
Mais t'sais, ça veut pas
ça
dire...
Ça reste que les États-Unis sont notre allié. Ils sont dans une position où la Chine voudrait arriver ici, ben les États-Unis vont nous défendre. Là, t'sais, on est quand même des alliés. Toi, tu penses que les États-Unis ne défendent pas puis la Chine nous mange?
Je pense que, tu sais, si on parle de défense, cette défense-là va beaucoup, beaucoup ressembler à une annexion. Peut-être pas ouvertement, peut-être pas qu'ils vont peut-être pas le dire, mais tu sais, j'ai l'impression que...
On n'a pas un Golden Dome ou je sais pas trop quoi qui s'en vient, là, tu sais, une arche, là.
Puis, tu sais, c'est aucunement dans les intérêts des États-Unis non plus de permettre au Canada d'être envahi, parce que si la Chine ou la Russie ou n'importe qui d'autre est capable de prendre contrôle d'une partie du territoire canadien, ça devient très facile pour eux. Après ça, ils ont un accès terrestre énorme et sans militarisation au territoire des États-Unis. Alors, les États-Unis ne peuvent pas permettre que le Canada soit envahi par une puissance étrangère, mais ça veut aussi dire que les États-Unis ne peuvent pas permettre que le Canada devienne trop proche économiquement, politiquement, à d'autres pays non plus. On est dans une position très difficile.
Oui,
je pense pas que la solution, c'est de dire on capitule puis on devient 51e État, mais il faut qu'on soit réaliste dans nos espoirs de dire on va pas se joindre à l'Union européenne demain matin non
ben
plus.
Non, c'est ça. Puis ils sont loin. Puis veut pas, on pourra pas effacer le fait que les États-Unis sont nos voisins.
Ouais.
J'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on fait, le Canada? Admettons, on jase là, encore. Là, t'es toujours en mode podcast, mais on a pris une puff, OK?
Je suis défoncé tête.
Qu'est-ce que le Canada peut faire pour améliorer son sort actuellement? Là, parce que, comme je dis, je trouve qu'on est comme un peu la risée. Carney, il parle, ça paraît bien, mais je trouve que ça n'a pas d'impact. La domination vient assurément des États-Unis, puis tout le monde réagit face à Donald Trump. OK? Fait que c'est Donald Trump qui mène le bal. Pendant ce temps-là, le Canada, qu'est-ce qu'on fait? Là? On a une meilleure armée. Là. Oui, j'ai compris qu'on avait mis plus d'argent dans le financement de l'armée, on veut recruter, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre? Avoir l'air crédible aussi. Je trouve, en termes de crédibilité, on l'a pas.
Si peut-être les 40-50 dernières années de la géopolitique mondiale a appris quelque chose avec les États-Unis, c'est qu'on ne peut pas les battre directement. La seule chose qu'on a à faire, la seule chose qu'il y a à faire, c'est résister et attendre. Et ça, c'est parce que les États-Unis ont un système politique qui on pourrait qualifier de, disons, très... Je veux pas être méchant, là... schizophrène, si on veut. T'sais, passe rapidement d'un état d'esprit à l'autre.
Oui.
Je dis ça en plein amour et respect pour mes collègues, mes amis, ma famille.
C'est une stratégie aussi. C'est le fait qu'on ne comprenne rien.
Mais c'est ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre que le système politique interne des États-Unis change, parce qu'il change rapidement d'un extrême à l'autre depuis plusieurs années. Puis ça, c'est pas nouveau. Et il faut se rappeler que fondamentalement, oui, tu sais, l'administration actuelle a été élue avec une majorité, mais la majorité, elle swing vite, elle bouge vite aux États-Unis. Et fondamentalement, les gens des États-Unis sont pas des gens différents qu'il y a un an, qu'il y a deux ans. C'est le même monde. Mm. Puis c'est les mêmes personnes avec qui on était amis, avec qui on était proches, avec qui on était des partenaires commerciaux, avec qui ça allait bien il y a un an.
Ben Trudeau a aussi un magasin nos relations internationales. Tu sais, il y a aussi le fait qu'il les a pas entretenus, on s'est chicané avec divers pays, puis ça a donné le résultat qu'on a présentement. Il y a du rattrapage qui est fait par Carney.
Il y a du rattrapage.
Au moment donné, on était seul au monde, personne ne défendait, puis l'Europe faisait pour bien paraître. Oui, on est là, mais finalement, ils se retournent de bord puis ils font des affaires avec d'autres mondes. Tu sais, on n'est pas super bien placé là, géopolitiquement. Là.
Ben, on
nos
t'sais...
relations sont on a déjà vécu mieux. Là.
Le Canada lui-même a été formé en réaction à la possibilité d'une invasion des États-Unis de différentes colonies britanniques qui ne sont pas joints aux États-Unis à la base. Alors, tu sais, la raison d'être
proche,
du Canada... Ça passe proche, oui. Alors, la raison d'être du Canada, c'est un peu ça. Je reviens à ce que je disais. La chose à faire, c'est de résister et d'attendre. Et ça, c'est sûr que ça fait juste un an qu'on a l'administration Trump, mais dans un an, il va avoir les élections de mi-mandat. Les élections de mi-mandat vont probablement beaucoup couper l'herbe sous les pieds de l'administration Trump. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre. Il ne faut juste pas que dans la prochaine année, nous, par panique, on fasse des espèces de mouvements qui sont peut-être un peu extrêmes, un peu radicales, en se disant « Ah, on a tellement peur de ce qui s'en vient ». On relaxe, on se prend une petite tisane. C'est sûr qu'on gère le voisin d'à côté, puis je pense que là-dessus... M. Carney fait quand même un assez bon travail diplomatique de le foie, tu sais, flatter du sens du poil sans quand même faire une capitulation ouverte. Ouais. Et on attend. Puis on attend que les États-Unis changent leur politique interne.
On a fait un très beau tour. Je te remercie beaucoup. Je ne sais pas, on dirait, je pense que je suis plus inquiète de la suite des choses que ça m'a rassurée. Là, je me dis, coudonc, on s'en va de ça en guerre? Est-ce que tu penses que... Puis on n'a plus de temps, puis, mais j'ai envie de te la poser. Tu penses quoi de 2026, sans être trop long? Là? Est-ce que tu penses qu'on va connaître une guerre ou... On est toujours en 2026 va être une continuité du jeu d'échecs.
Une chose que l'administration Trump a été claire dans ses paroles et dans ses gestes, ce n'est pas une administration qui veut la guerre.
Oui.
Elle veut contenir, elle veut limiter les guerres. On peut même interpréter l'action au Venezuela comme étant une action décisive de décapitation pour éviter une situation de guerre prolongée, peut-être. Là, je veux dire, si on veut l'interpréter de même, c'est une interprétation légitime. Je le souhaite pas. Souhaitons-le pas. Je pense pas que c'est quelque chose que les grandes puissances veulent, mais des fois, même les grandes puissances contrôlent pas exactement la direction du jeu.
Ouais, et puis Taïwan, ça s'en vient, hein, selon Xi Jinping. On verra.
Ah, c'est, ça a bien commencé, c'est malade. Fernand Marcette, un gros merci d'être passé en studio. Vous pouvez le suivre sur ses différents réseaux sociaux. Nous autres, on revient et au retour, oh là là, Renaud Labrecque.
Ouellet.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Radio X.